Europe 1, il est 7h.
Quand même au 7e jour de grève, il serait grand temps quand même qu'ils se mettent à discuter. On a affaire à des irresponsables et des nuisibles.
Les cheminots ne décolèrent pas contre le gouvernement. La présentation de la réforme des retraites hier a même remobilisé les troupes.
Et la CFDT se joint à la mobilisation pour dénoncer la mise en place d'un âge d'équilibre à 64 ans.
Au-delà de la contestation, on va vous entendre aussi dans ce journal. Que change la réforme pour vous? Certains ont déjà fait les comptes, d'autres s'interrogent encore. La parole ce matin aux femmes, aux enseignants ou aux professions libérales.
Dans ce journal aussi, la lassitude des Britanniques. Appelé aux urnes une nouvelle fois aujourd'hui.
Les politiques aujourd'hui sont aux deux extrêmes, donc si vous êtes plutôt modéré comme moi, personne ne parle pour nous. Les hommes politiques, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils mentent ouvertement.
Une majorité claire au Parlement peut-elle se dessiner aujourd'hui pour trancher enfin sur la question du Brexit? On posera la question à notre invité, ancien ministre travailliste Denis McShane.
Et puis quand Neymar joue la carte du collectif, c'était hier au Parc des Princes en Ligue des Champions, et ça a plu aux supporters.
Classe, il a gagné des points. Il a gagné des points auprès du public, je pense.
C'est un très beau geste.
Europe 1, 7h01, excellent réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal Mathieu Belliard, Marion Calais.
Et ça devrait donc repartir de plus belle. La CFDT, UNSA et la CFTC opposées à l'instauration d'un âge pivot à 64 ans pour une retraite sans décote entrent dans la danse de la mobilisation mardi prochain.
Le front syndical s'élargit et les contestataires de la première heure retrouvent un peu de vigueur au lendemain des annonces gouvernementales. Reportage auprès des cheminots grévistes, Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Après 7 jours de grève, la fatigue commençait à se faire ressentir chez certains cheminots et agents RATP. Mais la prise de parole du Premier ministre a réussi à leur donner envie d'amplifier le mouvement, comme par exemple multiplier les actions auprès d'autres salariés pour qu'ils rejoignent la mobilisation. À Caen, par exemple, eh bien, les cheminots vont aller ce matin à la rencontre de leurs collègues des transports publics. Et ce sera le cas dans de nombreuses villes. Arnaud Marcinkiewicz, secrétaire général de la CGT Cheminots à Montparnasse, sera lui à nouveau dans la rue cet après-midi à Paris. Il ne comprend pas pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour enfin envisager des négociations au sein des entreprises.
Attendez, on est quand même au 7e jour de grève. Il serait grand temps quand même qu'ils se mettent à discuter. On a affaire à des irresponsables et des nuisibles. Enfin, peut-être, ils vont nous ouvrir la porte pour qu'on discute. Mais c'est inadmissible. Donc voilà, on est en colère, nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles encore on va continuer, c'est pour ça.
Le gouvernement espérait convaincre la CFDT et l'UNSA, c'est raté. Certains conducteurs de la CFDT cheminots devraient même se remettre en grève. Et puis à l'UNSA RATP, syndicat majoritaire dans l'entreprise, aucun affaiblissement du mouvement n'est envisagé. L'idée, c'est de désormais tenir jusqu'à mardi prochain et réussir une mobilisation de la même ampleur que celle du 5 décembre.
Des grévistes revigorés donc et des syndicats désormais tous dans la contestation. Bonjour Nicolas Barret.
Bonjour Marion.
Votre éclairage éco tous les matins dans ce journal. En se mettant à dos la CFDT, pourtant un allié potentiel, le gouvernement prend un pari risqué.
Le Premier ministre a en effet rendu des arbitrages qui poussent le premier syndicat de France à rejoindre le front du refus en cause de cet âge d'équilibre de 64 ans qui fait que si on part à la retraite avant, par exemple à l'âge légal de 62 ans, on subit un malus. La CFDT avait prévenu, c'était pour elle une ligne rouge, car ça revient selon elle à repousser de facto l'âge de la retraite. Mais Édouard Philippe et Emmanuel Macron voient dans ce mécanisme un indispensable gage de sérieux. Pas question de basculer dans un système à points avec des déficits. Le calcul est aussi politique. Cette exigence de rigueur financière ne déplaira pas à l'électorat de droite auprès duquel le président est de plus en plus populaire.
La conséquence, c'est le renforcement du front syndical.
Oui, c'est clair. Dans les arbitrages rendus hier, il y a aussi d'autres sujets irritants pour les syndicats comme la pénibilité. Ils estiment qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte dans la copie rendue par Édouard Philippe. Le syndicat de Laurent Berger, qui a vocation à être un allié de sortie de crise, normalement, se retrouve maintenant dans le camp de la mobilisation, même si c'est à sa manière et sans se mêler aux banderoles des autres. Je ne veux pas entrer dans une logique de rapport de force, disait hier Édouard Philippe. C'est pourtant bien ce qui se dessine.
Le Premier ministre qui s'est dit aussi ouvert aux discussions, mais ferme sur la réforme. C'était l'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Merci Nicolas.
C'était l'éclairage Échos avec Région Job et Paris Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi sur Région Job et Paris Job. Et
cristallisation donc de l'opposition syndicale, mais aussi politique. Hier soir, pour la première fois depuis 23 ans, tous les partis de gauche ont fait meeting commun à Saint-Denis.
Et à droite, quelle réaction? Éric Woerth, qui a piloté une précédente réforme des retraites en 2010, vous vous en souvenez, il sera mon invité Tout à l'heure à 7h40, avant de retrouver l'un de ses successeurs, Gérald Darmanin, 8h15 au micro de Sonia Mabrouk.
Mais cette réforme, c'est aussi du quotidien pour chacun d'entre nous. Comment est-elle perçue? Que va-t-elle changer dans les faits? C'est ce qu'on a voulu savoir ce matin sur Europe 1, en donnant la parole à plusieurs catégories de travailleurs.
Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
On va commencer ce matin avec les professions libérales.
Oui, ce sont celles qui ont le sentiment d'être les grandes perdantes de cette réforme. Dans le système actuel, elles financent leur retraite grâce à des caisses qui leur sont dédiées. Il en existe pour les avocats, les médecins, les infirmiers libéraux, les experts comptables aussi. C'est le cas de Denis, il a pris sa calculette pour simuler sa nouvelle pension.
Si je suis dans mon régime de retraite actuel, je cotise 8000 euros par an et j'ai le droit en retraite à 26000 euros. Avec le régime universel, j'ai 3000 euros de moins, 11%, et je cotise 40% de plus. J'appelle pas ça de l'équité. J'ai quand même l'impression aujourd'hui que le régime universel n'a qu'une seule vocation, financer les régimes spéciaux qui n'étaient pas financés.
Il n'y aura pas de siphonnage, a assuré pourtant hier Édouard Philippe. Les réserves resteront dans les caisses des professionnels concernés. Le Premier ministre a aussi tenu à rassurer les enseignants. Il leur a promis que le niveau de leur pension serait maintenu grâce notamment à un effort sur les primes. Aline Becker est directrice d'école maternelle en région parisienne. Elle aussi a fait ses comptes.
Le fait qu'on passe d'un calcul des 6 derniers mois où c'est les salaires les plus élevés des enseignants, à un calcul sur l'ensemble de la carrière, on est forcément extrêmement perdant sur le niveau des pensions. En moyenne, ça représente 500 euros de perte. Donc la prise en compte des primes, de toute façon, ne va pas rééquilibrer le système pour nous, ça on le sait bien. Donc on n'a pour l'instant aucune garantie en ce qui concerne le niveau de nos pensions.
Et cette réforme, Hélène, elle fait tout de même aussi quelques heureux.
Oui, les agriculteurs, par exemple. Au lieu d'un minimum retraite de 900 euros pour une carrière complète, Coralie touchera au moins 1000 euros par mois. Mais cette éleveuse de Haute-Marne de 36 ans regrette que la réforme ne concerne pas aussi ses aînés.
Si on sait déjà qu'on aura 1000 euros quand on sera en retraite, ça peut être que mieux. Mon oncle, il gagne 800 euros et il gagnera 800 euros jusqu'à la fin de ses jours. C'est injuste par rapport au travail qu'il a fourni pendant toutes ces années.
Hélène, ce que le Premier ministre a voulu mettre en avant, ce sont les femmes dont les carrières sont souvent morcelées.
Oh oui, à ce sujet, le gouvernement assure que le système par points sera plus favorable que le calcul sur les 25 meilleures années. Pascaline travaille dans une société d'événementiel. Elle semble convaincue.
Normalement, ce sera bénef. Et j'aurai des points par rapport à mon salaire, d'après ce que je comprends. Donc ça veut dire que j'aurai pas une mauvaise retraite. Après, gouvernement, hein, on ne sait pas. Hein.
Si certains craignent que les pensions soient à terme moins élevées, Édouard Philippe l'a en tout cas assuré. La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur du point acquis ne puisse jamais baisser. Mieux, le point sera indexé sur les salaires, a-t-il ajouté.
La réforme des retraites vue par les premiers et les premières concernées. Témoignages recueillis par Hélène Terzian et Ronan Coquelin pour Europe 1.
Sophie est architecte à Lyon. Elle nous a appelé au 39-21. Elle est née en 1975. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Directement concerné par la réforme.
Oui, complètement. Mais en fait, à un moment donné, il faut qu'on soit aussi tous solidaires. On est dans une situation assez catastrophique sur nos régimes de retraite. Il faut qu'on soit tous conscients qu'il faut qu'on travaille plus.
Et vous êtes prête à travailler plus? Vous avez fait des calculs vous concernant, hein.
Oui, exactement. Moi, j'ai fait des études longues. Je peux partir à la retraite à 62 ans. Je n'aurai pas ma pleine retraite. Ma pleine retraite, je l'aurai uniquement à 67 ans, me concernant.
Merci Sophie d'avoir pris la parole. On avait eu des appels plutôt contre depuis 6 heures. Sophie soutient la réforme, elle nous a appelé au 39-21. Vous réagissez aussi sur le hashtag Europe 1 ce matin. N'hésitez pas, vous serez en direct avec nous.
Et la grève contre laquelle sont toujours mobilisés de très nombreux salariés des transports, cheminots ou salariés de la RATP. Difficulté encore ce matin sur le réseau ferroviaire et dans les transports en commun. Sur les routes aussi, 313 km de bouchons à l'heure actuelle en Île-de-France.
Votre journal se poursuit dans un instant avec les élections au Royaume-Uni. Boris Johnson veut une majorité pour acter le Brexit. Peut-il l'obtenir? Reportage et analyse à suivre.
À 7h10 sur Europe 1, la suite du journal. Mathieu Béliard, Marion Calais.
3 ans et demi d'atermoiement autour du Brexit et aujourd'hui une nouvelle élection.
Élection législative anticipée au Royaume-Uni avec d'un côté le conservateur Boris Johnson qui veut lancer le Brexit. De l'autre, le travailliste Jeremy Corbyn qui veut un deuxième référendum. Et au milieu, des électeurs, vous les comprendrez, fatigués. Illustration à Wolverhampton, dans le centre de l'Angleterre. Théo Manval pour Europe 1.
There's not much choice at the moment because the choice isn't very good.
On ne peut
pas dire qu'on ait le choix et que les candidats soient bons. Cette électrice résume à elle seule la lassitude largement partagée au moment d'aller voter ce matin. Lassitude devant les promesses mirobolantes du Labour pour se retraiter, 83 milliards de dépenses en plus chaque année.
J'ai dit à ma petite fille, n'écris pas au Père Noël. Écris à Corbyn, parce qu'il veut dépenser plus que tout ce que le Père Noël pourra t'amener. Nationaliser l'eau, les chemins de fer, l'électricité, je ne vois pas comment on va payer ça.
Et les conservateurs n'ont pas vraiment meilleure presse, à commencer par le Premier ministre Boris Johnson, réputé pour ses mensonges. Emma est notaire, elle est indécise.
Les politiques aujourd'hui sont aux deux extrêmes, donc si vous êtes plutôt modéré comme moi, personne ne parle pour nous. Les hommes politiques ont toujours menti, mais si vous prenez Boris Johnson, maintenant, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils mentent ouvertement.
Lors d'un récent débat télé, quand la présentatrice a demandé au Premier ministre si la vérité était quelque chose d'important, sa réponse, un grand oui, a provoqué les rires de l'auditoire. Bojo garde ce matin 10 points d'avance dans les sondages. Wolverhampton, Théo Manval, Europe 1.
Bonjour Dennis McShane. Dennis McShane, bonjour.
Bonjour, je suis là.
Ancien ministre travailliste sous Tony Blair, 10 points d'avance pour Boris Johnson. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir ce soir un Parlement sans majorité ?
Il se peut. Sept sondages datent d'hier, celle de ce matin, dont un avance de 6 points pour M. Johnson. Donc c'est pas une chute, mais c'est une grande descente depuis le commencement de cette campagne électorale. En effet, c'est une conteste de l'impopularité. Moi, je frappais à pas mal des portes. Les électeurs n'aiment pas M. Johnson, n'aiment pas M. Corbyn et n'aiment pas tomber amoureux de Mme Swinson. Ça, c'est le jeune leader écossaise du Parti libéraux-démocrate.
On a entendu le reportage de Théo Manval et ce que vous décrivez, c'est cette lassitude aussi des électeurs. Est-ce que ça risque de jouer, Dennis McShane, sur la participation ?
Oui, on pense que le taux de participation sera réduit. Moi aussi, j'étais dans le Wolverhampton le mardi et je peux confirmer exactement ce que votre reporter annonce. Et aussi, il y a 17% des électeurs qui n'ont pas encore décidé à 7h, à 1h avant les ouvertures des urnes, comment ils vont voter. Donc, et aussi, il fait un temps dégueulasse ici en Angleterre. Donc, rester à la maison, regarder la télé au lieu d'aller faire son devoir de citoyen.
Ça, c'est donc aussi une réalité. Merci, Dennis McShane, ancien ministre travailliste sous Tony Blair. Merci d'avoir été notre invité en direct dans le journal de 7h.
Élection aussi aujourd'hui en Algérie, scrutin présidentiel après quasiment 10 mois de contestation. Et puis, le sommet sur la situation au Sahel, convoqué après la mort de 13 soldats français au Mali, finalement reporté. Il devait se tenir lundi à Pau, mais Emmanuel Macron a décidé de le décaler après la violente attaque d'un camp militaire au Niger, près de la frontière avec le Mali, justement. Les djihadistes auraient pilonné le site avec des obus. Bilan, 72 morts parmi les militaires.
Victoire du PSG 5-0 hier soir contre Galatasaray et Neymar a marqué des points auprès des supporters. Vous allez l'entendre dans un instant.
Europe 1, il est 7h15. La suite du journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Une démonstration pour finir en beauté, celle du Paris Saint-Germain contre les Turcs de Galatasaray hier soir. 5-0 dans le dernier match de poule de la Ligue des Champions.
Avec même un Neymar félicité par les supporters, c'est rare. Et Julien Froment nous explique le pourquoi de ce petit miracle.
82e minute de jeu, Kylian Mbappé est fauché dans la surface de réparation. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Neymar se saisit alors du ballon et après un bref échange avec le Français, le donne à l'attaquant uruguayen Edinson Cavani sous les vivas du Parc des Princes. L'Uruguayen ne tremble pas et inscrit le 5e but parisien. L'image est belle, le geste de Neymar est fort. Certainement calculé, mais très apprécié par les supporters parisiens.
Classe, il a gagné des points. Il a gagné des points auprès du public, je pense.
C'est un très beau geste. Chapeau. Grand merci à lui et puis bravo à Cavani.
Depuis son banc de touche, Thomas Tuchel a aussi salué l'altruisme de sa star.
Je suis très heureux parce que je dis toujours, il est en gare avec un grand cœur. Nous sommes une équipe ensemble. Il a donné pour Eddie et j'espère que c'est un symbole pour l'équipe et pour cette saison.
Au-delà de ce pénalty offert, Neymar a livré hier soir son match le plus abouti de la saison avec le Paris Saint-Germain. Et il n'a pas été sifflé, signe que le temps est en train de faire son œuvre, même auprès des supporters les plus récalcitrants.
Tirage au sort, hein. C'était Julien Fromont et le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce sera lundi prochain à Nyon en Suisse.
On va suivre évidemment en croisant les doigts. Vous êtes sur Europe 1, c'était le journal de 7h, Marion Calais, un nouveau journal à 7h30 avec Hélène Zélani.